Michel Alice.
Merci, Monsieur le Président. Donc, d'une certaine façon, je vais revenir sur le propos qu'a tenu Jean-Jacques Renolier tout à l'heure, en développant de façon un petit peu plus précise qu'il n'a pu le faire, cette question des entretiens qui sont donc organisés dans le cadre de la Société des Nations et qui sont directement liés à l'activité de la sous-commission des lettres et arts, donc, qui est présidée d'abord par l'ancien ministre belge Jules Destrée, sous-commission donc, qui est elle-même, puisque tout cela est très compliqué, qui est elle-même une émanation de la Commission internationale de coopération intellectuelle, présidée par Bergson, on l'a dit, et ensuite par Gilbert Muret. Alors, au moment de sa création, donc, en 1925, cette sous-commission des lettres et arts ne dispose d'aucun modèle sur lequel, en quelque sorte, fonder son action. Elle doit se définir sa propre mission et ses premiers travaux touchent à des questions qui sont assez étroitement techniques, l'unification du diapason, la création d'un office des musées et de la revue Muséion, l'organisation d'un congrès des arts populaires, le développement des traductions. Donc il y a là des choses qui sont naturellement très, très intéressantes et utiles, mais assez techniques. Et Valéry se persuade assez vite qu'une certaine publicité, au sens le plus noble de ce terme, une certaine publicité donc est nécessaire si on veut que les peuples comprennent vraiment que les débats qui se déroulent dans le cadre de la coopération intellectuelle les concernent vraiment. Et donc, durant la session de 1928 de cette sous-commission, il affirme devant ses collègues, je le cite, que l'organisation de coopération intellectuelle n'existera que dans la mesure où elle existera dans l'opinion publique. Il revient sur cette question 2 ans plus tard, et cette fois de façon plus explicite. Si l'objet de la Société des Nations, dit-il, est de créer un état de compréhension mutuelle entre les peuples qui parviennent à éliminer de leurs relations les expédients brutaux et les solutions violentes, alors la coopération des esprits est la plus importante à favoriser. Or, les travaux de la coopération, en raison justement de leur confidentialité, sont, dit-il, jusqu'ici des réponses à des demandes qui ne se sont pas produites, des aliments offerts à un appétit qui n'existe pas encore. Donc nous sommes ici en quelque sorte au fondement de la pensée qu'il développe sous le nom de politique de l'esprit et qui vise à favoriser le travail de la raison contre les excès des passions, en particulier, vous l'avez dit tout à l'heure, des passions nationales. Donc il s'agit donc essentiellement de mobiliser ce que Valéry appelle les parties supérieures de l'esprit contre les parties inférieures qu'il voit trop largement à l'œuvre dans l'action politique, dans les actions politiques nationales. Et donc cette confiance dans les pouvoirs de l'intelligence et de la raison le conduit à postuler, de manière, il faut le dire, assez radicale, qu'une société des esprits est la condition d'une société des nations. L'année suivante, donc en 1931, tandis que la sous-commission devient comité permanent des lettres et arts, une double décision est prise pour donner corps à la publicité que je disais. Des entretiens donc se trouvent créés, en même temps qu'une correspondance qui fait signe, bien sûr, du côté du XVIIIe siècle, de la correspondance de Grimm, par exemple. Alors, je ne dirai rien de ces échanges de lettres qui ne sont pas aujourd'hui mon sujet, sinon qu'elles donnent lieu, Jean-Jacques Renolier l'a rappelé tout à l'heure, dès 1933, donc un petit volume récemment réédité, où Einstein et Freud tentent de répondre à la question « Pourquoi la guerre ?». Et ce qui m'intéressera davantage, vous allez comprendre pourquoi, c'est que la même année, donc en 1933, Valéry et Henri Faucillon, qui seront plus tard collègues dans cette maison, Valéry et Faucillon donc donnent au premier volume de cette correspondance, qui s'intitule précisément « Pour une société des esprits », ils lui donnent une introduction signée de leurs deux noms, ce qui est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul texte de Valéry qui soit co-signé avec quelqu'un d'autre. Il signe donc cette introduction, qui est un texte assez remarquable pour qu'on s'y arrête un instant. Tout porte à croire, en effet, que ce sont eux deux, Valéry et Faucillon, qui ont été les têtes pensantes, en quelque sorte, de cette double création de correspondance et d'entretien, et que ces pages, donc, quelques mois tout juste après le premier des entretiens qui s'est tenu à Francfort en 1932, ces pages peuvent être considérées comme la base théorique, mais également comme le programme que s'assigne le récent comité permanent. Et l'influence de Valéry va être d'autant plus forte que c'est lui qui, après le décès de Jules Destrée en 1936, va présider le comité permanent. Ce qui se trouve développé dans cette introduction, c'est donc une espèce de philosophie générale dont il ne faut pas s'étonner qu'elle dessine justement un horizon un peu inatteignable ou utopique, une sorte d'idéal que la réalité difficile de l'avant-guerre va rendre assez chimérique. Et ici encore, il s'agit assez bien de cet idéal des vainqueurs dont parlait hier Marc Fumaroli. Alors, en premier lieu, ces pages d'introduction reprennent la formule que Valéry avait énoncée 2 ans plus tôt. La société des nations suppose la société des esprits, affirmation qui marque une espèce de coup de force théorique, si on veut, d'un double point de vue. D'abord, bien sûr, parce que c'est plutôt la société des esprits qui suppose la société des nations, dont elle dépend. Mais coup de force également, si on songe qu'à sa naissance, l'ASDN n'envisageait pas de prendre en charge la culture et que les instances de coopération intellectuelle sont une création plus tardive. Il y a donc dans cette formule une sorte de renversement des préséances. Mais la même universalité qui aurait dû présider à l'existence d'une véritable société des nations, cette même universalité se voit assignée à la coopération intellectuelle. L'ambition ici n'est rien moins que d'éclairer la conscience universelle, c'est une formule de cette introduction, et les entretiens devront concilier la singularité d'une création intellectuelle attachée à l'otium de chacun, en quelque sorte, et la fécondité de l'échange entre tous. Je lis quelques lignes. L'essence de la pensée la plus solitaire, élaborée dans la plus secrète et la plus jalouse indépendance, c'est de se communiquer, d'émouvoir au loin des accords, des affinités, et même ces réactions opposées qui attestent sa qualité. L'histoire de la civilisation est faite ainsi, comme la vie des peuples, non seulement d'actes publics et de monuments écrits, mais d'une énorme quantité de dialogues muets et de conversations sans parole entre ceux qui pensent. Donc c'est à ces dialogues muets qu'il faut donner voix, dans la correspondance comme dans les entretiens, mais ces dialogues, il convient de leur donner d'autre part une orientation, de définir leur teneur, sinon leur programme. Et puisqu'il s'agit d'atteindre à l'universel, l'objet de ces échanges n'est rien d'autre qu'un certain humanisme. Le texte le dit très clairement, que veut-on faire de l'homme et quel homme veut-on faire? On ne sera donc pas surpris qu'après les premiers entretiens de 1932, que j'évoquais à l'instant, qui, à Francfort, donc sa ville natale, célèbre le centenaire de la mort de Goethe, et donc qui sont une espèce de commémoration, après ce premier entretien, les rencontres suivantes donnent lieu à des débats très larges et qui sont cette fois toujours tournés vers l'avenir, comme le laissent entendre les titres mêmes de ces rencontres, la formation de l'homme moderne, vers un nouvel humanisme, l'avenir de l'esprit européen, etc. Donc pour les auteurs de l'introduction que j'évoque, cette généralité est celle même qui doit rendre possible, la formule apparaît sous la plume de Valéry et Faucillon, rendre possible une république des lettres qui, je cite, ne s'applique pas à un groupement professionnel, mais à des hommes pénétrés avec diversité d'un même sentiment des grandes urgences de l'esprit, voués par essence à l'action intellectuelle et organisés pour en assurer l'efficacité. Donc, loin d'ouvrir un pur jeu de l'intelligence séparée du réel, ces échanges doivent produire un effet qui soit de diminuer, sinon de faire tout à fait disparaître, ce que Valéry et Faucillon appellent l'antagonisme de deux humanités, l'une vivant selon l'esprit, l'autre vivant selon l'instinct. Alors, il n'est certainement pas indifférent, évidemment, que se trouvent alléguées ici les grandes urgences de l'esprit, dans un texte qui a été écrit donc quelques mois après la mort de Briand et probablement quelques semaines avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, puisque l'achevé d'imprimer du volume est de mars 1933. Mais cette formule, donc, les grandes urgences de l'esprit, est peut-être malheureuse en même temps si elle donne à entendre que la coopération puisse œuvrer dans l'urgence, alors que la condition première de son efficacité ne peut être que cette longue durée qui lui sera précisément refusée. Mais enfin, la formule renvoie au sentiment d'une crise présente, aussi bien naturellement dans le champ politique que dans le champ culturel, et l'inquiétude liée à la disparition d'une culture et à l'émergence d'une autre, liée à la massification de l'enseignement, à la présence décroissante des langues anciennes dans cet enseignement, c'est une question qui est abordée lors d'un entretien, due également à la naissance du cinéma et de la radio. Cette inquiétude donc sera une des nervures centrales de tous les entretiens. Lorsque, par exemple, on évoque à Nice en 1935 la formation de l'homme moderne, les débats s'engagent à partir d'une contribution écrite qu'a fait parvenir Thomas Mann, qui n'a pas pu être présent. Et dans cette contribution, Thomas Mann considère que c'est la massification de l'enseignement, justement, survenue au XIXe siècle, qui a entraîné ce qu'il appelle l'incroyable appauvrissement de la civilisation. Et un clivage va apparaître assez clairement entre ceux qui, comme Thomas Mann ou Valéry, justement, qui se montrent le plus attachés au maintien d'une tradition, c'est-à-dire d'une transmission, et ceux qui, à l'instar de Jules Romain, considèrent, c'est la formule dont il use lui-même, considèrent qu'il ne faut pas pleurer sur le passé. Cette ambition d'universalité, donc, que l'introduction définit, on ne peut naturellement manquer de la voir d'entrée de jeu, mise à mal par la structure même d'une société des nations, qui est loin, comme on sait, de s'ouvrir à toutes les nations. Il convient pourtant de garder présent à l'esprit, Jean-Jacques Renelier le rappelait tout à l'heure, c'est très important, que les membres de la coopération intellectuelle ne sont pas mandatés par leur pays, de telle sorte donc qu'Einstein, François Zouville rappelait hier, peut siéger à Genève avant que son pays n'entre à la SDN, et Thomas Mann, à l'inverse, peut continuer de participer aux entretiens après que son pays, dont il s'est d'ailleurs exilé, en sera sorti. Alors, il reste que fort peu de non-européens participeront à ces rencontres. À Francfort en 1932, puis à Madrid en 1933, tous les intervenants, ou presque, viennent du vieux continent. Quelques Chinois ou Japonais, enfin, je dis quelques, mais il faudrait dire un ou deux plutôt, Chinois ou Japonais sont invités plus tard. La poétesse chilienne et futur prix Nobel de la paix, Gabriela Mistral, sera également conviée. Quelques rares Américains, Thornton Wilder, par exemple, mais, si j'ai bien vérifié, aucun représentant de l'Union soviétique, de l'Afrique, du Moyen-Orient, ni de l'Australie ne participera jamais à ces entretiens. À l'exception de ceux de Buenos Aires, d'ailleurs, ces entretiens se tiennent toujours en Europe, et pis encore, si j'ose dire, un tiers d'entre eux se déroule en France, deux à Paris et un à Nice, et les débats se trouvent publiés en français par l'Institut de coopération de Paris. Quelle que soit donc la généralité des questions abordées lors des entretiens, les débats seront donc toujours empreints d'un fort tropisme européen, et d'autant plus que la crise politique du vieux continent, plus grave chaque année, imposera l'évidence plus douloureuse d'un drame spécifiquement européen. L'universalité, enfin, se trouve restreinte par le fait même que c'est le comité des lettres et arts qu'il organise, et que ce comité n'accorde qu'une place assez chiche, il faut le dire, aux autres savoirs, disciplines ou pratiques culturelles. En premier lieu, l'accueil fait aux lettres l'emporte sur celui des arts, puisque c'est le comité des lettres et arts. À Venise même, en 1934, alors que les entretiens pourtant ont pour sujet les arts et la réalité contemporaine, la proportion de gens de lettres est considérable, même si Béla Bartók ou Le Corbusier sont présents, aux côtés de quelques peintres et sculpteurs. Quant à la musique, il était prévu que de nouveaux entretiens donc, lui fussent consacrés en 1939. Ernest Ansermet et Dino Lipatti avaient été invités, ainsi que Honegger et Stravinsky, mais également Claudel et Gide. C'est toujours cette même importance massive de la littérature. Et parmi les participants, aux côtés des écrivains ou des essayistes, figurent des universitaires issus de ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines, hein, Viggo Brondal, Lucien Lévy-Brull, Paul Hazard, Jean Piaget, Unamuno, etc. A l'inverse, on ne peut manquer d'être frappé, alors que les sujets de ces entretiens sont des sujets qui attestent toujours une ouverture très large, on ne peut qu'être frappé donc par l'absence quasi totale des représentants des sciences, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences dures. Marie Curie, qui d'ailleurs préside les débats, est présente aux entretiens de Madrid en 1933 pour traiter de l'avenir de la culture, ainsi que Langevin, le généticien britannique Haldane, le médecin Gregorio Marañón. En 1936, le mathématicien hongrois Béla Kerek-Jartó participe aux entretiens de Budapest, mais Émile Borel, dont on a parlé hier, n'est présent assez curieusement à aucune de ces rencontres, quoique son comité français de coopération européenne, très lié à la Société des Nations, comme le rappelait hier Jean-Michel Guilleux, donc quoique ce comité co-organise certaines de nos rencontres. Donc il y a là une absence un peu surprenante. Alors il se peut que l'expérience que le comité des lettres et arts a mise en œuvre se trouve suivie par l'institution d'un comité de conseillers scientifiques qui organise à Varsovie, par exemple, en 1938, des rencontres consacrées aux nouvelles théories de la physique. Il n'empêche que ce sont là des discussions d'experts qui ne sauraient relever d'une culture véritablement ouverte. Et la séparation, donc, sans doute trop largement maintenue entre les lettres et les sciences, peut sembler un obstacle à l'efficacité des entretiens. Pas un seul scientifique, par exemple, ne siège à Nice en 1935 lorsqu'on envisage la formation de l'homme moderne, de telle sorte que l'année suivante, lorsqu'on traite d'un nouvel humanisme, l'historien Huizinga peut légitimement proposer que les sciences puissent relever d'un comité des lettres et arts élargi. Mais enfin, bon, ça aurait fait quelque chose d'un peu étrange et la proposition n'aboutira pas. Alors, assurément, cette hégémonie de la littérature n'est pour une part que le reflet du considérable prestige qui est le sien à cette époque-là. Et pour le reste, on aurait sans doute tort d'oublier aussi que ces entretiens ne font alors que commencer, qu'ils conservent encore une sorte de dimension peut-être un peu tâtonnante ou un peu expérimentale et qu'ils auraient sans doute été appelés à évoluer si la guerre ne fût survenue. On ne peut cependant s'empêcher de constater que l'ouverture disciplinaire de ces rencontres est finalement plus étroite que celle à laquelle donne lieu vers ces mêmes années, c'est quelque chose qui m'avait frappé, les conférences et surtout les débats de la Société française de philosophie, ou ceux de Pontigny, dont les décades sont sans doute plus ouvertes, tout ensemble, et plus longues, puisque ce sont des décades, alors que les entretiens ne durent que 3 jours, ce qui est finalement assez peu. C'est d'ailleurs l'exemple de Paul Desjardins que Thibaudet allègue lorsqu'il apprend, à la fin de 1931, la création de la correspondance et des entretiens. Paul Desjardins, dit-il, qui n'a peut-être fait de la coopération que comme M. Jourdain faisait de la prose. Dans une série de 3 articles des Nouvelles littéraires qu'Antoine Compagnon a récemment republié dans le cadre des réflexions politiques, Thibaudet accueille en effet la nouvelle de cette création de la correspondance et des entretiens avec un mélange d'amitié et en même temps de scepticisme un peu ironique. Sans qu'il le dise ouvertement, la volonté de changer l'état des esprits lui paraît assez chimérique, et il n'a probablement pas tout à fait tort. Quant à créer une correspondance et des entretiens, évidemment, dit-il, ce n'est pas une révolution, et il n'a pas tout à fait tort non plus, de même qu'il a raison de pointer dans ses rencontres le risque d'un certain babélisme qui, en fait, sera écarté par le fait que ce seront des rencontres, finalement, assez européenne. Beaucoup plus dur est le ton de Jean Guéhenno, qui, sur ce même sujet, fait paraître donc dans la revue Europe, le 15 mars 1932, un article dont le titre même, « Les intellectuels et le désarmement », montre la profondeur du malentendu qui est en train de se creuser entre la coopération et cette partie de l'opinion qui est censée être la plus éclairée. Il s'adresse aux membres du comité des lettres et arts et il leur reproche très durement de n'avoir, en dépit de leur fiévreuse activité, je le cite, « finalement rien fait ». Et tandis que se tient la conférence du désarmement, qui d'ailleurs échouera, il les invite, ces membres du comité permanent, il les invite à traiter une fois une question urgente et vraie. Alors, ajoute-t-il, le monde vous donnera audience, osez prendre de décisifs engagements, les hommes alors vous entendront. Une certaine mauvaise foi, je crois, n'est pas absente de ce réquisitoire, et Valéry est fondée à lui répondre dans une lettre privée qu'en créant la correspondance et les entretiens, le comité a tenté d'exalter un peu sa fonction et que c'était là une sorte d'abus, hein, dit Valéry, une petite expérience qui outrepassait la mission étroitement technique qui était originellement assignée à ce comité. Mais en même temps, la méprise de Guénaud concerne surtout ce qu'il appelle l'urgence et les décisifs engagements, car le comité n'a aucun pouvoir d'aucune sorte qui lui donne le droit de s'engager. Reste pourtant que se trouve ainsi posé, de façon tout de même judicieuse, même si c'est de façon en même temps injuste, se trouve posé le problème des fins pratiques que les entretiens peuvent viser. Dès les commencements, le principe a été posé, Jean-Jacques Renelier le rappelait tout à l'heure, le principe a été posé que la coopération donc doit se montrer indépendante de toute politique parce que la politique divise et l'esprit rassemble. Et concrètement, ce sont donc de simples recommandations qui se trouvent formulées à l'issue de la plupart de ces entretiens. Les propositions qui sont ainsi faites ne manquent pas totalement d'intérêt, mais elles restent très générales et faute de reposer sur l'accord unanime des participants, elles se cantonnent le plus souvent au rappel de principes généraux, où elle ne formule qu'avec prudence les initiatives qu'il convient de prendre. Alors, je me contenterai ici d'un exemple. En 1937, c'est une idée d'ailleurs qui n'est pas forcément déraisonnable, qui pourrait être reprise. En 1937, plutôt que de demander la création d'un domaine public payant qui permettrait de constituer une caisse internationale des lettres, on se borne à souhaiter qu'une enquête soit conduite à ce sujet, ce qui revient naturellement à enterrer l'affaire. Thibaudet, ici encore, peut donc, avec quelques raisons, écrire que, puisque l'on vient aux entretiens, dit-il, avec la louable intention de coopérer et d'être d'accord, on finit par voter de bon cœur vers une résolution assez neutre, où sont mises en clair quelques remarques de bon sens. Alors, le jugement doit être, je crois, cependant un peu nuancé, et nuancé surtout d'un point de vue politique. Lorsque Thibaudet formule ce jugement, donc, à la fin de 1933, c'est après avoir lu les actes des entretiens de Madrid sur l'avenir de la culture, que j'ai évoqué tout à l'heure, présidé par Marie Curie, et le volume affiche en effet une espèce d'écuménisme peut-être un peu mou. Tout porte à croire pourtant, alors qu'en 1933, les entretiens, je le rappelle, n'en sont qu'à leur seconde session, tout porte à croire que les différents politiques ont été en fait plus profond et les échanges sans doute plus vifs que ne le laissent paraître les actes publiés. Et j'inclinerai à croire que certains propos n'ont pas été transcrits, car une lettre de Valéry à sa femme, une lettre inédite, évoque les incidents qui ont éclaté donc à Madrid en 1933. Les propos sévères n'ont pas été ménagés aux Allemands ni aux Italiens, par Unamuno en particulier, et aussi par Jules Romain, qui se fera une sorte de spécialité de ses attaques politiques. C'était un tempérament un peu rugueux, semble-t-il. Et donc, il ne s'est pas privé d'être parfois assez agressif. Alors, évidemment, il serait, je crois, intéressant de disposer d'archives qui permettent de retracer, en quelque sorte, un peu l'histoire secrète de ces entretiens, puisqu'il semble que les actes publiés ne reflètent pas parfaitement la totalité des affrontements. Alors, il n'empêche que ces escarmouches, sans doute peu évitables, en même temps n'ont guère de sens, puisque les orateurs, je l'ai dit, donc, ne représentent pas leur pays. D'autre part, ces escarmouches sont dénuées de sens, puisque les gouvernements les plus autoritaires ne manqueraient pas d'exercer des représailles sur les hommes qui, lors des entretiens, auraient eu l'audace de défendre des positions véritablement dissidentes. Mais en tout cas, des divergences se font jour, qui apparaissent parfois clairement à la lecture des actes de ces rencontres, et à l'issue, par exemple, de celle de 1937, tandis qu'on s'apprête à voter une motion finale qui affirme que le destin prochain des lettres est lié à la liberté d'expression. Bon, ça fait partie de ces propositions assez générales sur lesquelles on vote à la fin des débats. Alors qu'on affirme cela, donc l'Italien Alessandro Pavolini, qui est le président de la Confédération fasciste des professions libérales et des artistes, Pavolini s'écrit « Nous demandons la liberté, je dis bien la liberté, d'avoir la situation qui nous plaît. Bon, » ce qui est quand même tout à fait autre chose. De ce point de vue, sa position d'exilé, mais aussi son courage personnel, donne à Thomas Mann une liberté que d'autres n'ont pas. Et c'est certainement lui qui, avec Jules Romain, s'engage le plus politiquement. En 1935, absent des entretiens de Nice sur la formation de l'homme moderne, il adresse une contribution écrite que j'ai déjà évoquée et il y adopte une position très claire, tout en s'excusant, dit-il, d'excéder les limites peut-être un peu académiques que notre corporation a jusqu'à présent assignées à ces discussions. Il affirme solennellement que la politique et l'esprit, la politique et la civilisation ne sauraient plus être séparées. Il faut savoir, dit-il, quel est l'homme qu'on veut et qu'on se représente comme idéal. Et il conclut, ce mot « vouloir » que Faucillon vient de faire entendre me paraît nouveau parmi nous et me semble présenter une importance sensationnelle. Il signifie cette recrudescence d'activité dont j'ai parlé. Il implique la fermeté morale vis-à-vis des phénomènes du temps, le courage de dire oui et de dire non, ce courage qui, dans un monde où règne la confusion et l'égarement, est seul capable de donner naissance à l'autorité de l'esprit. Alors, la position de Thomas Mann est plus ferme encore l'année suivante. J'y insiste un peu parce que ces textes sont très peu connus. En 1936, lors des entretiens de Budapest, il est donc cette fois présent. Et c'est avec plus de vigueur encore qu'il évoque la liberté. Il dit ceci, « Ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, c'est d'un humanisme militant, tout imprégné de la conviction que le principe de la liberté, de la tolérance et du doute ne doit pas se laisser exploiter et submerger par un fanatisme qui ne connaît ni la honte ni le doute, de la conviction qu'il a non seulement le droit, mais aussi le devoir de se défendre. » Et restreignant lui aussi son propos à l'Europe, il affirme que l'Europe n'existera que lorsque l'humanisme aura découvert sa virilité et agira avec la persuasion que la liberté ne doit pas devenir une lettre de franchise aux mains de ses ennemis mortels et de ses assassins. Alors, parmi les délégués, aucune voix ne s'élève pour l'approuver ni le désapprouver, mais la presse hongroise, on considère ce silence comme une sorte d'assentiment. Les propos de Thomas Mann, en tout cas, sont reproduits dans le volume des entretiens et lorsqu'un quotidien hongrois les reproduit dès le lendemain, l'ambassade d'Allemagne élève une protestation officielle. Alors, fallait-il même accepter de siéger à Budapest, la capitale du régent Horthy, comme on sait ? Dans une revue d'opposition, un jeune journaliste hongrois, Pál Ignatius, s'interroge sur le sens même que peut ainsi revêtir une politique de l'esprit. Il se montre, je crois, à la fois excessif et injuste lorsqu'il écrit que la politique actuelle, hostile à l'esprit, force celui-ci à se mettre à son service pour ajouter ainsi à sa propre force. Injuste quand il dit que la coopération intellectuelle est de nos jours la trahison même de l'esprit. Il a tort, naturellement, car la coopération ne se met au service d'aucune politique et ne trahit pas l'esprit. Reste qu'en acceptant de se rendre à Budapest, le comité permanent affronte le même dilemme que les membres du Pen Club avaient rencontré quand ils avaient tenu leur congrès là-bas en 1932. Marquer les distances à l'égard du pouvoir hongrois ou se taire, ouvrir les yeux sur une Europe où les dictatures se renforcent, ou tout au contraire, les fermer. Alors, tel que je le pose ici, bon, le dilemme est en fait trompeur, car on peut avoir les yeux bien ouverts sur la réalité des dictatures être conscient que l'Europe marche à sa perte et préserver la coopération. Reste que la fonction de cette coopération, à ce moment-là, n'est plus la même, et deux positions contraires sont ouvertes. Ou bien on considère qu'il est désormais chimérique de vouloir changer l'état des esprits par le seul pouvoir de l'intelligence, et on n'assigne plus aux entretiens qu'une pure mission intellectuelle, sans souci, sans espoir d'amender le réel. C'est la position de Valéry. Ou bien on considère que la coopération doit être mise au service d'un engagement véritable contre la politique des dictatures. C'est la position de Thomas Mann. Alors, la première position, celle de Valéry, est sans doute un aveu d'échec. En même temps, la seconde est, je crois, assez irréaliste. Et bon, j'aurais à ce sujet un point de vue un petit peu différent de celui qu'évoquait ou défendait tout à l'heure Jean-Jacques Renolier, parce que si on adopte la position de Thomas Mann, qui est de mettre la coopération au service de la politique, à ce moment-là, cela suppose que soit non seulement dénoué, mais même véritablement rompu le lien entre la coopération et la société des nations, qui lui interdit donc de sortir du domaine culturel, et les congressistes, du coup, ne parleraient plus qu'en leur nom personnel. Donc à ce moment-là, il faudrait refonder autre chose, mais ce ne serait plus la coopération dont nous parlons. Ensuite, parce que la diversité des hommes qui participent aux entretiens rend impossible, je crois, une action militante qui leur soit véritablement commune. Il est difficile d'ailleurs de savoir avec précision ce que souhaitent à cet égard les participants, je veux dire tous les participants, en dehors de quelques personnalités comme Valéry ou Thomas Mann, parce que d'année en année, ces participants ne sont pas tous les mêmes et on ne formule jamais la question de cet engagement politique. On ne la formule jamais vraiment pour elle-même de façon tout à fait directe et tout à fait claire. C'est pourtant d'une certaine manière le problème qui se trouve plus ou moins tacitement posé à Genève en 1938, lorsque la commission plénière, donc présidée par Gilbert Muret, se réunit pour tirer un premier bilan, qui sera en fait le dernier naturellement, premier bilan des entretiens qui se tiennent maintenant depuis 6 ans, et donc pour leur donner, si possible, un nouvel essor. Alors l'Espagnol Salvador de Madariaga insiste sur la nécessité, dit-il, de ne pas être inutilement inutile et de ne pas perdre de vue que l'organisation de coopération intellectuelle doit être l'antenne intellectuelle, morale et spirituelle de la société des nations. Donc techniquement, en quelque sorte, la question qui se trouve posée, c'est celle des sujets que l'on aborde lors de ces entretiens, sujets qui sont d'autant plus étroits que l'on cherche à clore les sessions par des suggestions plus précises, et sujets qui peuvent à l'inverse rester très larges si on considère que l'intérêt de ces rencontres est essentiellement dans leur principe même, c'est-à-dire permettre qu'on se voie et qu'on se parle. C'est ce dernier point de vue que défend Valéry, qui répond à Madariaga que le lien entre la coopération et la SDN ne doit pas être trop étroit. Je le cite, « L'organisation de coopération intellectuelle a pour but de montrer qu'il est possible de constituer une sorte de stratosphère intellectuelle où pourraient avoir lieu des échanges qui seraient indépendants des nationalités, non dans la nature même des individus, mais en dehors des catégories politiquement définies comme nations. Ce qui revient à considérer que la société des esprits se dégage souverainement de la société des nations, c'est le point de vue de Gilbert Muret et de Reynolds que vous rappeliez tout à l'heure, et ce qui revient à considérer donc qu'il ne s'agit plus de rapprocher les deux humanités que j'évoquais tout à l'heure, celle qui vit selon l'esprit et celle qui vit selon l'instinct. En recourant au terme de stratosphère, Valéry s'épargne le besoin d'en dire davantage sur cette espèce de dégagement vers le haut, si j'ose dire. Il ajoute néanmoins deux phrases qui montrent bien à quel point la rupture est pour lui consommée. Ces deux phrases, ce sont les suivantes. D'une part, il faut sauver le capital intellectuel du monde qui est menacé. Et d'autre part, l'intellect est vicié par l'idée politique, cachée ou explicite. Finalement, cette nouvelle République des lettres se trouvait prise au piège de l'institution qui l'avait fait naître, au piège aussi d'une universalité qui avait fait totalement faillite, mais on peut jeter sur ces entretiens, je crois, un double regard, finalement. Rapporté à la haute mission que leur assignaient Faucillon et Valéry, ils ne pouvaient que décevoir, et certainement même auraient-ils déçu s'il leur avait été donné de se poursuivre au-delà de 1939. Mais rapporté, tout à l'inverse, à la place assez chiche que la SDN avait faite à la coopération intellectuelle, qui était entrée tardivement, selon le mot de Thibaudet, par l'escalier de service, on peut être tenté de les juger à l'aune non de leurs résultats, car somme toute les circonstances tout de même étaient contre eux, mais de les juger à l'aune de ces principes qui les guidaient et dont la hauteur même méritait que nous les évoquions aujourd'hui. Je vous remercie.